VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En RDC, une condamnation de 50 prisons a été requise contre Jean-Claude Muyombo, un ancien allié du président Joseph Kabila, devenu opposant. Les précisions avec Eddy Sango.
Le ministère public a demandé hier au tribunal de paix de Kinshasa, Ngaliema, de condamner Jean-Claude Muyombo à 60 mois de servitude pénale. L'opposant s'était retiré de la salle d'audience avant les réquisitoires en dénonçant les partis pris. La cour avait rejeté sa demande de report d'audience présentée pour vice de forme. Monsieur Muyombo a été arrêté durant les trois journées de meute à Kinshasa du 19 au 21 janvier 2015. Il était parmi les leaders de la manifestation. Il est accusé d'avoir vendu illégalement plusieurs immeubles appartenant à un ressortissant grec, Emmanuel Stoupis, au Katanga, dans le sud-est du pays. Monsieur Muyombo était avocat et collaborateur de Moïse Katumbi et ancien allié du président Joseph Kabila. Monsieur Katumbi a lui aussi été condamné dans une affaire similaire d'expoliation d'immeubles liés au même plaignant.
Au Cameroun, les connexions Internet sont coupées depuis plusieurs jours dans les régions anglophones. Cette situation paralyse les activités des citoyens et ne laisse pas indifférents les organisations non gouvernementales. Internet sans frontières déplore l'attitude des autorités camerounaises et appelle à un retour à la normale. John Lindon a joint à Paris Julie Orono, avocate et responsable Afrique de cette organisation.
Nous avons l'habitude depuis quelques années effectivement que des États, en l'occurrence le Cameroun, utilisent la question de la rumeur, de l'atteinte à l'ordre public pour justifier la censure sur Internet. Sauf qu'il existe des règles internationales et le Cameroun a signé et ratifié de nombreux traités internationaux qui protègent les libertés et qui évidemment permettent à l'État de réprimer en temps nécessaire mais à des conditions très strictes. La première condition c'est qu'effectivement il y a une atteinte à l'ordre public, sauf que ce n'est pas à l'État à seul de dire qu'il y a atteinte à l'ordre public, il faut que ce soit une autorité judiciaire qui confirme et qui atteste qu'il y a une atteinte à l'ordre public qui nécessite une limitation des libertés publiques. Or, dans le cadre des figures actuelles du Cameroun, à aucun moment un juge n'est intervenu pour expliquer que là où on se trouve, il faut que l'État intervienne pour réprimer les libertés. C'est ça que nous dénonçons et c'est ça qui, pour nous, potentiellement constitue la violation, une violation du droit international et des nombreux engagements du Cameroun sur la question des libertés fondamentales.
Julie Orono, avocate et responsable Afrique d'Internet sans frontières. En Somalie, au moins 7 personnes tuées et plusieurs blessées dans l'explosion de 2 véhicules piégés aux abords de l'hôtel Daya dans le centre de Mogadiscio, la capitale. Déflagration suivie d'une attaque par des militants Al-Shabaab armés. L'hôtel Daya est fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence. L'opération revendiquée par les islamistes Al-Shabaab affiliés à Al-Qaïda a commencé par une première explosion et des affrontements armés. La seconde explosion a eu lieu alors que les services de secours, des policiers et les médias étaient arrivés sur place. Parmi les blessés, au moins 4 journalistes. 2 hommes armés ont été tués par les forces de sécurité, a déclaré un responsable de la police. Le département d'État américain vient d'approuver une éventuelle vente d'appareils militaires d'un montant de 418 millions de dollars au Kenya, ce qui devrait aider dans la lutte contre le groupe Al-Shabaab. Jacques Aristide.
L'accord approuvé sous le mandat de Barack Obama, tout juste avant l'arrivée de la nouvelle administration de Donald Trump, devra être soumis au Congrès américain afin d'obtenir le feu vert final. Cette possible acquisition par l'armée kényane concerne notamment des avions à usage agricole, convertibles à l'usage militaire, des engins dont l'efficacité financière et militaire est élevée. Le deal, s'il se matérialise, permettra donc au Kenya de renouveler sa flotte aérienne avec du matériel américain. L'Agence américaine de coopération en matière de sécurité et de défense, qui tombe sous le Pentagone, précise que l'approbation a trait à la vente possible de 12 avions Air Tractor et 2 AT Trainer Aircrafts, des armes, du soutien technique, de même que la gestion du programme. Ces appareils devraient pouvoir soutenir le Kenya dans la lutte contre Al-Shabaab.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise en Gambie, le nouveau président gambien Adama Barrow attend cette semaine un rapport sur la sécurité avant de rentrer à Banjul. Les soldats de la CDAO sur place dans son pays préparent son retour. Réfugié à Dakar, M. Barrow a demandé à la mission militaire ouest-africaine de rester 6 mois en Gambie. Pour savoir les défis qui attendent le président Barrow, Eric Manirakiza a joint à Londres Fatou Diagne de l'ONG Article 19.
Aujourd'hui, le président Diagne devient une histoire. Mais le président Diagne était aussi un système. Donc il est clair que le président Diagne est parti, mais son système doit être vu. Et je pense que c'est ça le plus grand défi.
Après 22 ans de pouvoir et sa tentative de s'y maintenir, vu la manière dont il est parti, concrètement, comment gérer d'après Yahya Diagne?
C'est une Gambie nouvelle qui a suivi ses élections, suivi la campagne, savait que c'était ce slogan qui a tout au long rythmé cette campagne électorale qui a donné victoire à la coalition de sept partis. Et aujourd'hui, la Gambie commence à vivre une nouvelle ère. Et c'est une nouvelle Gambie, une Gambie qui va être unifiée, c'est un défi. C'est ce que les Gambiens ont voulu en votant pour une coalition. C'est une Gambie aussi qui doit se réconcilier. Parce qu'après 22 ans, il y a eu tellement de difficultés. L'état de droit a été sapé. Donc il va falloir reconstruire les bases de l'État et essayer de consolider l'état de droit pour permettre à tout un chacun de pouvoir jouir de ses droits. Et aussi de faire en sorte que ce qui s'est passé pendant ces dernières 22 ans puisse être utilisé comme une leçon pour l'avenir. Et c'est là où c'est important la réconciliation nationale. Mais qui dit réconciliation nationale dit vérité. Donc il est évident que cette commission qui pourra peut-être avoir plusieurs formes, qui aura peut-être un nom différent d'une commission vérité-réconciliation qu'on a connue dans d'autres pays, va être une commission qui permettra aux Gambiens de pouvoir se chercher et de pouvoir dire à leur façon leur histoire, leur douleur, et se pardonner pour aller de l'avant et pour donner confiance aux populations.
Est-ce que vous pensez que le nouveau président est bien préparé pour assumer ses responsabilités et gérer cette crise qui n'est pas terminée?
Maintenant, le travail commence. Le président Barrow est entouré, comme je vous l'ai dit, c'est une coalition de 7 partis politiques. Les attentes sont très importantes en Gambie, surtout de la jeunesse, et nous espérons qu'il saura tirer un profit de la situation actuelle et faire revenir tous les Gambiens qui sont compétents pour former un gouvernement et aussi apaiser les cœurs et permettre à la Gambie de tourner la page et de travailler pour son développement.
Fatou Diagne à Londres. En Côte d'Ivoire, la grève des fonctionnaires ivoiriens déclenchée depuis le 9 janvier, dont on avait pourtant annoncé la fin, continue. Théodore Nyanyazadi, l'un des leaders syndicaux, a déclaré que les grévistes souhaitent maintenant rencontrer le président ou son vice-président. M. Nyanyazadi accuse le chef de l'État, Alassane Ouattara, de ne s'être jamais prononcé sur leur mouvement. Il faut qu'ils disent quelque chose, vu l'état de la situation, a indiqué le leader syndical, en ajoutant que tout est bloqué et que le mouvement s'est renforcé sur le terrain. Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon, le champion en titre éliminé dès la phase de poule. La Côte d'Ivoire a été battue hier par le Maroc 1-0. Les Lions marocains de l'Atlas se qualifient donc pour les quarts de finale de la CAN en occupant la deuxième place de ce groupe C, puisque les Léopards de la RDC terminent premier après une belle victoire 3-1 contre le Togo. Ce jeudi, la grande finale du groupe D, Ghana-Égypte. Les Black Stars déjà qualifiés auront fort à faire face aux pharaons égyptiens qui ne sont pas assurés de la qualification. Le Mali, lui, est en embuscade face à l'Ouganda et les aigles maliens devront absolument l'emporter, comme l'explique l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Avec au compteur un point obtenu suite à leur nul contre l'Égypte en première journée, 0 but partout, les poulains d'Alain Giresse sont dans une position on ne peut plus délicate. Troisième derrière l'Égypte, 4 points, et le Ghana déjà qualifié pour l'écart avec 6 points. Les Maliens n'ont pas d'autre choix que de gagner contre les Cranes, les Grues ougandaises. Une telle victoire améliorerait leurs chances d'avancer sans la garantir pour autant. Pour ce faire, les aigles maliens devront espérer que les Black Stars du Ghana battent les pharaons, un match où les Égyptiens mettront toute leur force dans la bataille. Autre obstacle dans la voie des Maliens, l'église ougandaise déjà éliminée, mais qui aimerait rentrer à la maison avec ne fût-ce qu'un point pour sauver l'honneur. Bref, beaucoup de conditions à remplir pour que les Aigles du Mali accèdent au quart de finale de cette CAN 2017.
Merci Timothée Donangmaï. Restez à l'écoute de VOA.